Donc, à nouveau, bonjour à tous. Alors, dans des conditions un petit peu particulières aujourd'hui, puisque c'est à distance. Mais comme le disait Paul dans une de ses épîtres, on peut être absent de corps et présent d'esprit. Donc, considérez-moi comme présent d'esprit parmi vous, en tout cas par l'esprit qui nous réunit, qui est l'esprit de Jésus. Alors, une fois de plus, j'ai bien noté les différents passages qui ont été lus tout à l'heure par l'Assemblée. Hein, Romains 6, Éphésiens 4, Deutéronome 8, Galates 5, Proverbes 10 et Psaume 1 et Jean 17. Et vous allez voir que plusieurs des choses qui ont été lues, je vais y faire écho ce matin dans ce que je vais vous partager au nom de notre bien-aimé Jésus. Donc, c'est très réjouissant et en plus, ça va très très bien illustrer. Vous allez voir un des points particuliers que je vais aborder. Donc, je vais brièvement prier et ensuite lire le texte qui va nous occuper aujourd'hui. Seigneur Jésus, c'est ta parole que nous allons entendre ce matin et même très précisément une lettre que tu as toi-même écrite et adressée à une église. Et par conséquent, tu l'adresses également à nous. Seigneur, merci de bénir cette parole et comme il a été dit, de mettre de côté ce qui est humain et de garder simplement la moelle du propos de ce matin, que cela puisse toucher chacun des cœurs d'une manière ou d'une autre. Amen. Donc nous allons continuer aujourd'hui la série sur les sept lettres que Jésus a écrites au premier siècle de notre ère à sept églises d'Asie mineure. Donc comme je l'ai déjà dit à l'occasion des deux premiers partages, je vais me limiter vraiment au contexte de l'époque et des lettres que Jésus a adressées, comme Paul a adressé des lettres également à différentes églises. Donc aujourd'hui, c'est la troisième des sept lettres écrites par Jésus aux églises d'Asie mineure. Jésus écrit une lettre à l'église de Pergame. Donc je vais vous lire ce texte. Et ensuite, on va aborder donc quelques points. Ah oui, il faut que je pense. Vous souvenez, il faut que je mette le petit timer. Voilà, ça me donne un repère. N'empêche que c'est très utile, ça donne un repère visuel. Bien, voici donc ce que dit Jésus à Pergame. Écris aux messagers de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens retenant la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à la prostitution. De même, toi aussi, tu as des gens retenant pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc voilà ce que Jésus écrit aux messagers et donc à l'assemblée de l'église d'Éphèse. Donc il y a beaucoup de choses dans cette lettre. Évidemment, dans le temps imparti, il m'a fallu faire une sélection. J'aurai donc un thème mineur et un thème majeur. Le thème mineur est relié à la manière dont Jésus se présente à l'église de Pergame. Parce que c'est quand même assez particulier. celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Alors, je vous pose déjà la question. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, le symbole de l'épée, ça fait penser à quoi? Allez-y. Qu'est-ce qui est qualifié d'épée dans le Nouveau Testament? Oui, la parole. Oui. Alors, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, on trouve ça dans Éphésiens 6. Est-ce qu'il y a d'autres associations avec le mot épée? Alors, dans Hébreux 4, par exemple, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? La parole de Dieu est vivante et efficace. Voilà. Eh bien, étonnamment, le mot épée ici, non, je ne vais pas vous développer le grec et l'araméen, hein, mais le mot épée ici est une épée de combat. C'est une longue épée qui sert pour la bataille. Et on va retrouver ce même mot en Apocalypse 19, c'est-à-dire dans cette grande fresque que l'on voit vers la fin du livre de l'Apocalypse, quand Jésus revient. Et je vous lis simplement les versets 15 et 16 d'Apocalypse 19. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est une épée de combat. Alors, d'emblée, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que Jésus se présente à l'église de Pergame avec une épée de combat? Vous voyez, ça interroge déjà. C'est quand même assez curieux. Et c'est exactement la même épée qu'il va brandir lorsque Jésus revient, là où il est qualifié de roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est donc une épée de combat, c'est également l'épée de l'autorité politique sur les nations et les rois de la terre. Mais pourquoi est-ce que Jésus se présente à Pergame comme celui qui tient l'épée de combat? Question que l'on garde en tête. Pour mieux comprendre pourquoi Jésus se présente comme ceci à Pergame, je vous donne un petit contexte historique de Pergame, donc très rapide. Pergame était, dans les deux siècles qui ont précédé la venue de Jésus, et en particulier au deuxième siècle avant notre ère, Pergame était un royaume puissant en Asie mineure. Et donc, surtout au deuxième siècle. Et le dernier roi de Pergame, en 133, lorsqu'il est mort, n'ayant pas d'héritier, a légué son royaume à l'Empire romain. Donc, c'est en 133, non, pas l'Empire romain à l'époque, pardon, c'était encore la République romaine. Et le royaume de Pergame va devenir la province principale d'Asie. Et c'est à Pergame, en tant que capitale de la province d'Asie, que se tenait le proconsul de Rome avec son épée. Le symbole du proconsul de Rome, c'était son épée. Donc, vous voyez, on commence à voir là, épée contre épée. Plus important encore pour ce qui est de l'église de Pergame, Pergame, en tant que capitale romaine de la province d'Asie, était également le siège du culte de l'empereur romain. Et c'est sans doute dans ce contexte-là qu'il faut comprendre ce que Jésus dit à propos d'Antipas. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort parmi vous. Pourquoi? Parce qu'il était demandé régulièrement aux citoyens de l'Empire romain, et donc ici aux citoyens d'Asie mineure, d'aller dans le temple devant la statue de l'empereur et d'y déposer de l'encens en disant « César est Seigneur ». Et les chrétiens qui refusaient étaient mis à mort par le proconsul romain qui tenait l'épée. Donc on voit d'emblée que le contexte de Pergame est un contexte où il faut choisir entre César et Jésus. ne craignez pas l'épée de César ou l'épée de son représentant, le proconsul romain. C'est moi qui tiens l'épée suprême en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Ne craignez pas le pouvoir politique persécuteur. Donc, César ou Jésus. Pergame était également le siège d'un énorme temple, le temple de Zeus. À l'époque, alors il ne fait pas partie de la liste officielle des sept merveilles du monde antique, mais vraiment il rivalisait avec ces merveilles-là, et certains auteurs mettaient le temple de Zeus parmi les merveilles du monde, et en particulier son trône ou son autel, qui était un gigantesque autel. Alors, pour vous dire, 12 mètres de haut, 37 mètres de large, vraiment quelque chose d'énorme et d'extrêmement beau. Des redécouverts au 19e siècle par les archéologues allemands et que l'on peut admirer encore aujourd'hui au musée de Pergame à Berlin. Je vous encourage à taper sur le web « Hôtel de Pergame » sur Wikipédia, vous allez voir l'image, c'est impressionnant. Mais il est dit de cet autel ou de ce trône qu'il s'agit du trône de Satan. Et on sait qu'à l'époque, l'empire romain qui dominait sur le monde méditerranéen, c'est l'empire romain. Et avant la venue de Jésus et le fait d'avoir été détrôné par Jésus à la croix, donc Satan donnait les royaumes à une puissance après l'autre, comme vous pouvez le lire dans Daniel 2 et Daniel 7, les métaux de la statue ou les animaux que voit Daniel surgir de la mer Méditerranée. Je ne vais pas entrer du tout là-dedans. Mais à l'époque, donc, Rome et son représentant à Pergame étaient les persécuteurs du peuple de Dieu et par conséquent agissaient avec l'esprit de Satan. Donc, ce n'est pas pour rien que Pergame est appelé le lieu où est le trône de Satan, hein, capitale de la province d'Asie et lieu du culte rendu à l'empereur. Et donc, toute la problématique de Pergame est reliée à la question du rapport entre le politique et le religieux. Puisque la caractéristique de l'Empire romain a toujours été d'opérer un espèce de syncrétisme entre le politique et le religieux et les différentes religions. Mais c'est pas grave si tu dis que César est seigneur le reste du temps. Tu pratiques ta religion chrétienne et il y a juste une fois par an, on te demande de mettre un peu d'encens devant une statue. C'est pas grave. Vous voyez ? À jouer avec ce syncrétisme-là, on finit par nier de manière concrète que Jésus seul est le Seigneur. Voilà, ça c'est pour donner l'arrière-plan de Pergame. Ça donne le contexte dans lequel évoluaient les chrétiens à Pergame. Il y avait cette menace constante d'être attrapé pour ne pas avoir dit ou ne pas vouloir dire que César est Seigneur. Et donc, la tentation des habitants de Pergame, des chrétiens de Pergame, voilà, c'était d'essayer de jouer une forme de syncrétisme et de compromis. Et c'est là que Jésus apparaît avec son épée en disant, mais attendez, au-dessus du pouvoir de César, il y a le mien. C'est le mien que vous devriez plus craindre que celui de César. Voyez, César ou Jésus. Donc, j'aurais pu développer l'étude d'aujourd'hui de cette lettre de Jésus à Pergame sous l'angle du rapport à la politique. Alors, typiquement, par exemple, à partir de Romains 13, où Paul va décliner justement les différents points concernant le rapport du chrétien aux autorités politiques. Et je vous rappelle que dans Romains 13, il est également question de l'épée du magistrat. Vous voyez ? Donc, mais ce n'est pas cet angle-là que je vais suivre pour une raison très simple. C'est que le reproche de Jésus à l'église de Pergame ne concerne pas ce point. Puisqu'il dit au contraire, tu as retenu mon nom, tu n'as pas renié ma foi, et même il y a des martyrs qui ont accepter la mort plutôt que de dire César est Seigneur. Exemple, Antipas. Mais le reproche que fait Jésus à Pergame, donc ce n'est pas son rapport à la politique, mais le fait que dans l'église de Pergame, c'est instituer un rapport à la hiérarchie qui est un double de ce qui se passait à l'extérieur de Pergame dans le monde, et en particulier dans les cultes religieux païens. Et c'est de ça que Jésus va parler à Pergame, et donc c'est ce thème-là que je vais développer maintenant, ce que j'ai appelé le thème majeur. Et donc je rappelle ce que je dis Jésus. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens retenant la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à la prostitution. Et de même, tu as des gens retenant la doctrine des Nicolaïtes. Vous constaterez qu'un verbe apparaît trois fois ici. Tu retiens mon nom, mais il y a des gens qui retiennent la doctrine de Balaam et dit Nicolaïte. Il y a un compromis, il y a un mélange. Certes, tu retiens mon nom, mais tu retiens autre chose. Alors, la doctrine de Balaam, c'est la première fois qu'elle apparaît dans le cycle des sept lettres que nous parcourons. Par contre, il a déjà été question de la doctrine des Nicolaïtes. Est-ce que vous vous rappelez dans quelle église? Alors, c'est pas compliqué, c'est Éphèse ou Smyrne. Laquelle des deux? C'est Éphèse. Et est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Éphèse par rapport à la doctrine des Nicolaïtes? C'était positif ou négatif? Alors, ça dépend comment on le comprend. En tout cas, Jésus avait dit à Éphèse, c'est bien parce que tu gardes la doctrine des Nicolaïtes hors de l'Église. Hein? Donc, alors, c'est négatif par rapport à la doctrine des Nicolaïtes et c'est positif parce qu'Éphèse gardait l'enseignement des Nicolaïtes en dehors. Et Jésus va même dire, je hais l'enseignement des Nicolaïtes. Ça, c'était pour Éphèse. Mais voyez que ce qu'Éphèse a bien gardé dehors, Pergame le tolère en son sein. Voyez? Donc, on pourrait dire, pour simplifier, Éphèse avait l'amour de la vérité, mais comme on l'a dit, la première fois, avait perdu le premier amour. Donc Éphèse avait la vérité sans l'amour. Ici, on pourrait dire de Pergame qu'elle a l'amour. Elle ne veut pas dire que César est seigneur, mais elle est un peu laxiste au niveau de la vérité, puisqu'elle tolère en son sein des fausses doctrines. Éphèse a la vérité sans l'amour, Pergame a l'amour sans la vérité, ou une vérité partielle, elle est tolérante. Donc elle pratique cette espèce de syncrétisme que l'on trouve dans les temples païens qui étaient à Pergame. Ça, c'est le premier point à mentionner ici. Le deuxième point, c'est la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Alors, je ne vais pas chercher exactement quelles sont ces doctrines. On va plutôt se concentrer sur l'étymologie des mots, des noms, Balaam et Nicolaïte. Pourquoi? Parce qu'étonnamment, Balaam en hébreu ou en araméen et Nicolaïte en grec, ce sont deux mots qui veulent dire exactement la même chose. Ceux qui dominent sur le peuple, qui se sont rendus maîtres, Baal, vous connaissez le nom Baal, ça veut dire maître, seigneur. Et Am, en hébreu et en araméen, c'est le peuple. Maître du peuple. Et Nicolaïde, Nicolaïos, dominateur ou vainqueur du peuple. Et par conséquent, le problème sans doute de Pergame, en tout cas tel que je le comprends au travers de la lecture de la lettre, c'est son rapport non pas à l'autorité politique extérieure à l'Église, mais son rapport à l'autorité religieuse à l'intérieur de l'Église. Et c'est ça que je vais développer. Ce qui est en jeu ici, c'est l'avènement au travers de la doctrine de Balaam et de la doctrine des Nicolaïtes, c'est l'avènement que Jésus condamne d'une hiérarchie dans l'Église, où il y a des supérieurs, des inférieurs, des dominants, des dominés. Voyez? Un rapport qui n'est plus égalitaire. Hiérarchie, c'est un mot qui veut dire hiéreus, qui veut dire ce qui est sacré, et arché, le principe d'autorité. Donc, c'est la notion en clair de prêtrise. À Pergame, il y a la tentation de mettre en place une prêtrise au-dessus du peuple. Exactement à l'imitation des temples divers et variés qu'il y avait déjà à Pergame. Autrement dit, d'instaurer à l'intérieur de l'Église un rapport à l'autorité que l'on retrouve à l'extérieur de l'Église sur le plan religieux et politique. Et donc là, ça nous concerne tous. C'est notre rapport à l'autorité. Et évidemment, il va falloir définir de quelle autorité parle-t-on. Parce que le point fondamental de la Nouvelle Alliance, au contraire de l'Ancienne, c'est que nous sommes tous prêtres à égalité. Je relis dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, les versets 5 et 6. Donc, vous voyez, d'emblée, dès le début du livre de l'Apocalypse, Jean nous rappelle ceci. À celui, c'est-à-dire à Jésus qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et cette notion de royaume de prêtres avait déjà été annoncée à Israël au temps de la première alliance. Vous le trouverez dans Exode 19, verset 6. Mais à l'époque, la prêtrise était circonscrite dans la tribu des Lévites. Mais la tribu des Lévites est le modèle de ce que sera la prêtrise dans la nouvelle alliance, où Dieu avait déjà dit à l'époque, je veux une nation sainte, un royaume de prêtres. Et vous retrouverez cette idée dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, et à nouveau dans l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 10. Qu'est-ce que je tire de cela? Il y a un seul grand prêtre, Jésus, et nous sommes tous prêtres de la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas de hiérarchie. Le seul hiérarque dans l'Église, c'est Jésus lui-même. Et ça, c'est fondamental. Et c'est comme cela que l'on comprend alors des choses auxquelles il a été fait allusion dans les lectures tout à l'heure, en particulier dans Éphésiens 4. L'Église est un corps dont nous sommes tous des membres, des organes intérieurs, extérieurs, chacun avec sa fonction, mais tous soumis les uns aux autres dans la crainte de Jésus qui est notre grand prêtre. Donc vous retrouvez cette notion-là non seulement dans Éphésiens 4, mais également 1 Corinthiens 12, 13 et 14, textes fondamentaux pour décrire le fonctionnement de l'Église. Donc, nous sommes tous prêtres et il y a un seul grand prêtre, Jésus. Et un seul intermédiaire entre nous, chacun d'entre nous ici, et Dieu le Père, le seul intermédiaire qui était dédonné, c'est Jésus lui-même, notre grand prêtre. Ça, vous le retrouvez, cette notion, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Pourquoi c'est fondamental? Parce que dans mon expérience chrétienne, j'ai constaté que le combat de la vie chrétienne ne tenait qu'à une seule chose. Une seule. Jésus doit rester le seul intermédiaire entre mon âme et Dieu le Père. Et il en doit en être de même pour chacun d'entre nous. Quand je vous adresse la parole ce matin, vous avez la responsabilité de discerner dans ce que je dis, ce qui vient bien de la parole et la manière dont l'Esprit va le vivifier, qui telle parole pour un tel, un autre parole pour un autre, mais c'est autant ma responsabilité que d'être aussi fidèle que possible à la parole que la vôtre de discerner ce que je suis en train de vous adresser au nom de Jésus. Et c'est le seul moyen pour que nous restions tous à égalité avec un seul prêtre, grand prêtre, Jésus. C'est là l'essence du combat chrétien. Et lorsqu'on faillit à ce seul point, Jésus, seul médiateur entre nous et Dieu le Père, il se passe deux conséquences. Et c'est exactement les conséquences qui sont nommées dans, comme conséquence de la doctrine de Balaam. Et les deux conséquences sont, comme il est dit ici, l'idolâtrie et la prostitution. Brièvement, Jésus, donc pour ce qui est de l'idolâtrie, Jésus est la seule image visible du Père invisible. Et Jésus nous présente une face aimable, aimante, souriante, compatissante. C'est ce qui est dit par exemple dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, versets 17 et 18. Jésus a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Nous sommes tous frères et sœurs et prêtres. Il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères, frères et sœurs, afin qu'il devint compatissant et fût un souverain prêtre fidèle dans les choses qui concernent Dieu, Dieu le Père, pour expier les péchés du peuple. Car parce qu'il a souffert, ayant été lui-même tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus, en devenant homme, il a littéralement compati, souffert avec notre humanité. Et surtout, il est la seule image qui était donnée aux hommes, image que nous devions adorer. Dès que l'on commence à mettre des autres intermédiaires entre nous et Jésus, dès qu'on permet l'avènement d'une hiérarchie entre nous et Jésus, on est en train de commettre le péché d'idolâtrie. Puisqu'on va attendre non plus que Jésus nous parle par sa parole, qu'elle vienne de la Bible ou d'un messager, et je reviendrai après sur la question du messager, mais on attend la parole de l'homme de Dieu providentiel. On regarde à l'homme, on ne regarde plus à Jésus. On n'attend pas la parole de la part de Jésus, malgré la faiblesse de l'homme, mais on ne voit que l'homme. On voit l'image en chair et en os, on est en train de pécher par idolâtrie. Vous voyez que c'est grave, hein, de ne pas mettre Jésus dans notre vie, dans la vie de prière, dans notre étude et dans l'Église, si ce n'est pas Jésus à qui nous regardons, nous sommes en train de mettre des hommes à la place de Jésus et nous sommes déjà dans la doctrine de Balaam, l'idolâtrie. Donc il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Jésus et nous. La deuxième conséquence de la doctrine de Balaam, c'est-à-dire l'acceptation de la notion de hiérarchie dans l'Église, c'est la prostitution ou la débauche, qu'elle soit littérale ou spirituelle. Et pour bien comprendre cela, je vais vous lire un passage dans 1 Corinthiens 6, versets 16 et 17. « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un même corps avec elle ? Car il est dit, les deux seront une seule chair. » C'est un renvoi à Genèse 2. Mais Paul continue ainsi, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc Paul compare notre union en esprit avec Jésus à l'union intime entre un homme et une femme. Et donc, sans développer ce point-là, qui serait l'objet d'études en soi, il y a un très très fort parallèle entre la sexualité et la spiritualité. Et cette image de l'union de l'âme du croyant ou de la croyante avec Jésus en un esprit, donc, renvoie à la notion d'intimité. L'intimité profonde, qui est notre besoin le plus profond, être aimé et aimé en retour. Et là, que l'on soit marié ou célibataire, il y a un besoin fondamental en notre esprit qui est d'être aimé et d'aimer en retour, le besoin d'intimité. Et il n'y a que Jésus, en tant qu'époux de l'Église, qui répond à ce besoin d'intimité. Donc, à nouveau, si Jésus n'est pas le premier dans notre vie, s'il n'est pas notre seul médiateur entre nous et le Père céleste, il va y avoir des dérèglements. que cela soit sur le plan de la débauche, le corps, ou sur le plan spirituel. On va se mettre à adorer d'autres choses. On va vénérer d'autres choses, d'autres images. Ça, c'est un point donc qui est important. Est-ce que vous pouvez me mentionner une église où on trouvait à la fois des problèmes de débauche et des problèmes d'idolâtrie? Et Paul va avoir une lettre assez sévère à l'égard de cette église. Est-ce que vous voyez à laquelle je fais allusion? Exactement. La première épître aux Corinthiens, donc, c'est l'église de Corinthe. Alors là, ce n'est pas la hiérarchie qui régnait, c'est le bazar, c'est l'anarchie. Donc, je vais en reparler un petit peu après. Mais effectivement, c'est à Corinthe. Vous verrez les problèmes de débauche dans 1 Corinthiens 5 et 6, où il est mentionné que notre corps est le temple de l'esprit. Et d'ailleurs, c'est du chapitre 6 que j'ai tiré ma lecture précédente. Et vous verrez dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, donc Paul dans les versets 15 à 22, qui parle des problèmes d'idolâtrie. Bien. Pourquoi c'est fondamental? Ce n'est pas en essayant de tenir les 10 commandements ou la loi que nous allons être rapprochés de Jésus. Il a été lu tout à l'heure un texte dans Galates 5 qui illustre très bien ça. C'est en marchant par l'esprit que du coup on peut désarmer la chair. Mais on ne peut marcher par l'esprit que si on est centré sur Jésus. Si Jésus est le seul médiateur entre le Père et nous, alors la dynamique de l'esprit s'enclenche. Nous vivons pour Jésus, nous sommes centrés sur Jésus. Il n'y a que par le plein de Jésus que nous pouvons désarmer la chair. Ce n'est pas en alignant les commandements et en prenant des résolutions pour ne plus faire ceci ou ne plus faire cela. Le moteur de notre vie spirituelle, c'est l'attachement à Jésus. Et donc, vous voyez bien pourquoi il est fondamental que Jésus soit en premier dans notre vie et seul médiateur entre nous et le Père. Et pourquoi l'avènement d'une hiérarchie dans une église coupe ce lien d'intimité avec Jésus, ce qui provoque toutes sortes de dérèglements. J'avance, parce que je vois que le temps avance. Mon point suivant maintenant, qui est un point que j'aborde dans les deux autres prédications en début, mais je ne l'aborde maintenant que maintenant ici. À qui Jésus s'adresse-t-il? Évidemment, il s'adresse aux messagers de l'église de Pergame, à ceux qui vont porter la parole, par exemple. Mais en fait, à l'assemblée entière, c'est ce que j'avais dit plusieurs fois déjà, en relisant au chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. » Sauf que maintenant, ce verset de Jean par lequel il introduit l'Apocalypse a une résonance maintenant dans notre oreille très particulière. Heureux celui qui lit. Plusieurs ce matin ont lu la parole. Je vous lis la parole. Mais également heureux ceux qui écoutent. Jean d'emblée établit la symétrie, comme je l'ai déjà dit, entre celui qui lit ou ceux qui lisent et ceux qui écoutent. Les deux sont co-responsables devant Dieu. Donc, quand l'Église devient charnelle, il y a deux réactions possibles. La première, c'est la verticalité de la hiérarchie, d'accord? Donc, on met en place, on accepte l'avènement d'une hiérarchie, d'une caste de prêtres intermédiaire entre nous et Jésus. Donc, en général, ça c'est un fruit de la chair, hein, parce que la chair, elle veut contrôler, elle veut dominer, et notre chair cherche à prendre la place de Jésus. Donc, là où il y a le contrôle, il y a la crainte. Là où il y a la crainte, il y a le manque d'amour. Donc la loi n'est pas accomplie, Jésus n'est pas premier. Donc les deux réactions extrêmes, la première, la hiérarchie dont je viens de parler, et la deuxième, alors là on veut tout contrôler, et la deuxième c'est l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut, et c'est le grand bazar. Exemple, l'église de Corinthe, et c'est pour ça que je vous ai demandé à quelle église, dans quelle autre église on trouvait l'idolâtrie et la débauche. On la trouve là où il y a une hiérarchie pesante et là où il y a l'anarchie. Donc, comment est-ce qu'on évite les deux extrêmes, de la hiérarchie et de l'anarchie? Eh bien, c'est que lorsque l'Église fonctionne comme un corps. Je vous avais déjà dit, et je ne dis pas ça devant le Seigneur pour vous flatter, mais gardez ce que vous avez. Lorsque l'Église est participante, proposer un cantique, un passage, une lecture, ça rend l'Église active. Et lorsque l'Église est active, ça permet de nous rappeler que nous sommes tous égaux devant Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une hiérarchie se met en place lorsque l'Église devient passive, lorsqu'elle devient consommatrice, et que la seule chose que l'on attend lorsqu'on vient au culte, c'est de chauffer la chaise et de consommer ce qui nous est dit. Là, c'est un énorme danger. En clair, il n'y a pas de gourou dans une église s'il n'y a pas de mouton passif. Et le meilleur moyen d'éviter la hiérarchie, c'est que tous, comme dans une auberge espagnole, nous amenions quelque chose pour le culte de la part du Seigneur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est très important ça. C'est le seul moyen d'éviter la hiérarchie. Là où il y a passivation d'une église, il y a un autre esprit qui vient, il y a un clergé qui se met en place, et ce n'est plus Jésus qui est au centre du culte. Et je l'ai expérimenté de mes propres yeux, j'en ferai une allusion dans la conclusion de ce passage, de ce partage. Et le fonctionnement de l'Église en tant que corps à l'auberge espagnole, on le voit tellement bien dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14. L'Esprit va s'exprimer au travers des membres, tel don spirituel, telle inspiration, telle parole de connaissance. Hop, ça vient, c'est partagé entre les membres et ça rend l'Église vivante et ça permet surtout à l'Esprit de parler au travers de l'Assemblée avant même que de parler au travers du messager du jour. Voyez ? Comme ça, tout le monde contribue. Et comme je l'ai déjà dit la dernière fois et je le répète là, lorsqu'en plus on voit cet écho entre les paroles de l'Assemblée et la parole du messager, on peut être réconforté. Voilà, le Seigneur est à l'œuvre par son esprit. Donc le culte doit être une œuvre collective. Et c'est comme ça que nous manifestons que nous sommes tous soumis les uns aux autres dans la crainte de Jésus, qui est le seul médiateur et seul grand prêtre. Alors j'avance. Un point quand même par rapport donc à la notion d'autorité dans l'Église et donc la notion d'ancien en particulier. Et là, nouveau, hein, ce n'est pas qu'un ancien est au-dessus des autres. Mais qui qualifie-t-on d'ancien dans la parole? Un des passages qui nous explique ça, c'est dans la première épître aux Timothée, au chapitre 3, versets 1 à 7. Donc, je vois que le temps avance, donc je ne vais peut-être pas lire l'ensemble de ce que Paul a demandé à Timothée de lire et de mettre en pratique dans l'église d'Éphèse, puisque à Éphèse, manifestement, il y avait un problème que Paul essaye de corriger au travers de Timothée en l'envoyant à Éphèse. Je vais simplement vous résumer en une expression ce que Paul est en train de dire à Timothée pour ce qui est de l'ancien. En un mot, est qualifié d'ancien dans une église celui qui a l'expérience de la vie et l'expérience de la relation avec Jésus. L'expérience de la vie, c'est pour ça que Paul va dire à Timothée, l'ancien doit avoir montré sa capacité à gérer sa maison, par exemple, et à tenir ses enfants dans la soumission. Attention, ça ne veut pas dire que les enfants, une fois émancipés, seront nécessairement des chrétiens. Mais pendant le temps où ils sont dans la maison, ils sont sous l'autorité des parents. Ensuite, chacun fait son choix. Mais expérience de la vie, bon témoignage à l'égard de l'extérieur et un enseignement qui reflète l'expérience de la vie avec Jésus. C'est comme ça qu'un ancien de la parole est un modèle, en fait. Son autorité vient non pas de sa place hiérarchique, mais simplement en tant qu'exemple et modèle, parce qu'il a, si je puis dire, suffisamment de kilomètres dans son compteur pour pouvoir dire, ah, voilà, Jésus, c'est comme ceci. Voilà comment je l'ai expérimenté dans tel problème, telle situation. Voilà qui peut aider chacun. C'est ça la notion d'ancien. D'ailleurs, le nom même d'ancien nous dit bien, ancien veut dire qu'il y a de l'expérience. C'est pour ça que Paul va dire à Timothée qu'un ancien ne peut pas être un jeune converti ou un jeune disciple. De ne pas qu'enfler d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et à Pergame, c'était particulièrement dangereux puisque c'est là que le diable même avec son trône. Donc, vous voyez. Donc, voilà, ça, c'était juste un mot sur la notion d'ancien. Donc, l'ancien ne veut pas dire forcément les cheveux blancs. Hein. C'est simplement qu'il y a une expérience suffisante de Jésus pour pouvoir la partager et être un modèle pour les autres. Mais en aucun cas, un ancien n'est au-dessus des autres. C'est juste un ministère parmi les autres, un don spirituel parmi les autres. Et nous avons tous reçu un don spirituel si nous avons rencontré Jésus. Et nous avons la charge de faire bénéficier l'ensemble de l'assemblée de ce don spirituel. Donc, cette autorité-là, on ne la peut l'acquérir que par l'expérience et par conséquent avec le temps. Je vous rappelle que Moïse, avant de pouvoir libérer le peuple d'Israël de la férule de Pharaon, il a fallu qu'il passe, si je puis dire, faire un stage de 40 ans dans le désert, hein, parce qu'il était un peu impulsif. Joseph, il va falloir 13 ans de descente dans l'abîme, entre 17 et 30 ans, avant que Dieu puisse l'utiliser. Jésus lui-même n'a commencé son ministère qu'à l'âge de 30 ans. Et pendant ce temps, il lisait l'Écriture et approfondissait la relation avec son Père. Il faut du temps. Il faut de l'expérience. Et l'autorité spirituelle dans l'Église vient de la mise en pratique de la parole. Alors ça, vous le retrouvez dans plusieurs passages de l'Écriture. Dans Matthieu 5, par exemple, Matthieu 5, 19, c'est celui qui met en pratique les commandements qui peut ensuite les enseigner. Là encore, il faut un peu d'expérience de la parole pour pouvoir ensuite la partager. Voilà, je pourrais vous donner d'autres passages, mais je vois que le temps avance. Donc, je vais en arriver maintenant aux promesses de Jésus aux vainqueurs. Là, c'est très intéressant parce que Jésus promet deux choses qui sont exactement les antithèses de l'idolâtrie et de la débauche, qui étaient les conséquences de l'enseignement de Balaam, c'est-à-dire l'avènement d'une hiérarchie dans l'Église. La première chose que promet Jésus, c'est la manne cachée. Quelqu'un a lu tout à l'heure un passage dans Deutéronome 8, et il a été question donc de la nourriture dans le désert, la manne. Eh bien, Jésus promet au vainqueur, c'est-à-dire celui qui gardera Jésus en premier dans sa vie et ne mettra pas d'intermédiaire entre lui et Jésus, il promet la manne cachée. Alors, la manne cachée, nous le savons tous, la manne, c'est d'abord un précurseur de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, donc de la manne, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais plus profondément que cela, la manne, c'est Jésus lui-même. Si vous vous rappelez ce qui est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 6, versets 49 à 51. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Tout autre pain que Jésus lui-même n'amène que la mort spirituelle. C'est ici, dit Jésus, le pain qui descend du ciel. » Afin que celui qui en mange ne meure point. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette manne, elle est cachée. Tiens, pourquoi est-ce qu'elle est cachée? Parce que Jésus ne la donne qu'à ceux qui sont en relation intime avec lui. Et je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure de notre intimité avec Jésus. Le Seigneur va nous parler, nous révéler la parole, nous inspirer tel ou tel passage pour l'Église, etc., dans l'intimité avec lui. Mais cette parole vivifiée par l'Esprit, elle est cachée, elle est voilée aux yeux de ceux qui vivent au travers d'une hiérarchie, aux yeux de ceux qui mettent un intermédiaire entre eux et Jésus. D'un seul coup, la parole n'est plus vivante. Et on a besoin d'interprètes, d'exégèses, de théologie, de tout un tas de choses. On ne reçoit plus cette parole vivante de la part de Jésus. Elle est cachée pour les uns et elle est révélée aux autres. C'est pour ça que la notion de manne cachée est une notion qui renvoie à l'intimité de la relation avec Jésus. Vous voyez, on ne peut la recevoir que là où Jésus est promis dans notre vie. Et cette manne cachée, par conséquent, s'oppose bien évidemment à la viande sacrifiée aux idoles, qui était la conséquence du culte de l'enseignement de Balaam. C'est-à-dire l'idée que l'on peut accéder à Dieu par une nourriture et non pas par Jésus, notre pain de vie. Hein ? On transforme une réalité spirituelle en une réalité charnelle, qui est le propre des cultes païens. La deuxième promesse que fait Jésus à celui qui vaincra, qui le gardera en premier dans sa vie sans intermédiaire, c'est le caillou blanc. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre, pourquoi le caillou blanc ? Le caillou blanc, dans le monde antique, c'était un caillou de suffrage. Lorsque l'on votait, on avait un caillou blanc et un caillou noir. Quand on approuvait, on mettait dans l'urne le caillou blanc. Et quand on rejetait le propos de la délibération, par exemple, on mettait un caillou noir. Et à la fin, on comptait les cailloux blancs et noirs. Lorsque Jésus nous donne le caillou blanc, c'est-à-dire « je t'approuve ». Mais Jésus va plus loin que ça, puisque sur le caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Et là encore, on retrouve la notion d'intimité. Pourquoi ? Parce que, un, ce nom-là, personne ne le connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Connaître le nom de quelqu'un dans le monde antique, c'était connaître l'essence, l'intime de la personne. Vous voyez ? C'est pour ça que des fois, d'ailleurs, quand on donnait un nom à l'enfant qui naissait, mais ensuite, lorsque l'enfant devenait adulte, on lui donnait un nouveau nom, un surnom, qui va mieux décrire le caractère intérieur qui a été manifesté par la personne. Donc, connaître le nom, c'est connaître l'intime de la personne. Et Jésus dit, je vais mettre sur ce caillou d'approbation, je vais mettre un nom que toi seul, tu vas connaître. Voilà la sonnerie. Donc, j'arrive à la conclusion. Parfait timing. Connaître le nom, c'est connaître l'intimité de la personne. On retrouve exactement la même idée, là encore, dans la grande fresque d'Apo 19 qui décrit le retour de Jésus. Verset 12, chapitre 19. Ses yeux sont une flamme de feu et sur sa tête sont beaucoup de diadèmes et il porte un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Voyez, la notion d'un nom intime, secret, qui n'est révélé qu'aux intimes. Donc, avec la manne qui fait le contrepoids de la viande sacrifiée aux idoles, nous avons ici le caillou blanc avec le nom de la personne, donc qui renvoie au nom du croyant et le nom de Jésus, donc le remède à l'intimité. Bien, donc il est temps de conclure maintenant, je vois que le temps est passé. J'aurais pu dire bien d'autres choses donc, sur tous ces passages. En particulier, par exemple, vous savez que même les apôtres étaient en train de se questionner qui est le plus grand, qui est le plus grand. Vous voyez, on a cette tentation dans la chair de vouloir hiérarchiser les frères et les sœurs dans l'Église. Veillons à cela. Pour conclure, la vie chrétienne, le développement de la vie chrétienne, le progrès dans la vie chrétienne ne tient qu'à une seule chose. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais le réexprimer d'une autre manière, ce que j'appelle le christocentrisme radical. Jésus doit être à la racine et au centre de notre vie. C'est le seul moyen d'avancer dans notre vie chrétienne, de faire des progrès dans notre lutte contre la chair, pour marcher par l'Esprit et toutes les belles promesses que nous promet la parole de Dieu et Jésus au travers d'elle. Si nous ne faisons pas de progrès dans notre vie chrétienne, demandons-nous si Jésus est bien le premier dans notre vie. Je n'ai pas dit Jésus à côté de ceci, de cela, et de cela, et de cela. Ça, c'est le syncrétisme qui menaçait justement l'église de Pergame. On fait un grand mélange. Non, non, Jésus en premier. Avec le recul, donc 34 années maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me rends compte que le seul combat au fond de la vie chrétienne, c'est de garder Jésus en premier. Et j'ai été personnellement témoin, alors là je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, je n'ai pas le temps, mais j'ai appartenu il y a bien des années à une mission qui avait très très bien commencé et assez rapidement s'est mise en place une hiérarchie. Et elle était présentée comme un intermédiaire entre les croyants et Dieu, ceux par qui la parole de Dieu venait au nom d'un réveil. Et sans aller très très loin, donc en 2002, au prix d'un processus, cette hiérarchie a été confrontée, dénoncée en tant que sectaire et légaliste, et cette hiérarchie n'a rien voulu entendre. Et les membres même n'y voyaient que du feu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de gourou s'il n'y a pas de mouton passif. La confrontation a eu lieu en 2002. Cette mission s'est effondrée en 2019. En 2019, Dieu a préféré que son nom soit blasphémé parmi les païens et a jeté le discrédit sur cette mission plutôt que de laisser les croyants et les brebis à l'intérieur de la mission souffrir à cause des abus de la hiérarchie. Vous voyez, c'est incroyable. Jésus est venu avec l'épée et a taillé dans le vif, et il a préféré que son nom soit blasphémé plutôt que de laisser les abus dans cette mission. On a un exemple concret de Jésus qui vient avec l'épée et qui finit par juger. Donc vous voyez que la notion de hiérarchie et la notion de clergé, il n'y a pas beaucoup de notions qui peuvent à ce point provoquer l'intervention de Jésus dans une église en jugement. Donc veillons à cela, nous sommes tous frères et sœurs, Jésus est le seul grand prêtre. Et c'est ce qui va nous garder de l'idolâtrie, de ne pas élever des hommes au-dessus de Jésus ou en faire des intermédiaires, et c'est ce qui va nous garder de la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle vient toujours du refus de notre chair d'être crucifié pour que la chair laisse place à l'esprit et que Jésus devienne véritablement premier dans notre vie. Voilà, c'est la conclusion de mon message d'aujourd'hui. Et prononçons le nom de Jésus, exaltons le nom de Jésus, dont j'ai beaucoup apprécié évidemment les deux, trois cantiques qui ont été prononcés puisqu'ils ont mis en avant le nom de Jésus. Et que vraiment Jésus soit le cœur de notre amour dans notre vie. Amen.
Amen.
Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée veut bien, deux ou trois personnes même, veut bien prier à la suite de ce message pour vraiment assembler, réunir l'assemblée avec le message ?